Bonjour à tous. La grande table se dédouble aujourd'hui avec un invité fil rouge, le journaliste écrivain italien Roberto Saviano. Son premier roman Piranha vient de paraître chez Gallimard. Une fiction, cette fois, mais toujours dans le décor de Gomorra, son enquête best-seller sur la mafia, la violence, la corruption dans sa ville de Naples, sortie en 2006, et qui lui vaut aujourd'hui encore des menaces et une vie sous protection policière. Gomorra, adapté au cinéma par Matteo Garrone, grand prix à Cannes l'année de sa sortie, décliné depuis en série. Jusqu'à midi et demi, nous parlerons donc ensemble du pouvoir de la fiction. Et à partir de 12h55, dans la deuxième partie de l'émission, Roberto Saviano sera rejoint par l'historien Jacques de Saint-Victor. Italie, le crépuscule républicain, et la France, alors que la cinquième fête aujourd'hui ses 60 ans, quelles sont les valeurs qui la maintiennent? Nous en parlerons donc dans la grande table des idées, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Vaut pour mon roman ce qui apparaît en ouverture du film de Francesco Rossi, main basse sur la ville. Les personnages et les faits sont imaginaires, mais le milieu et la réalité sociale qui les ont produits, eux, sont authentiques, écrivez-vous en introduction de ce livre roman. C'est donc à une réflexion sur le pouvoir de la fiction que vous nous invitez. Bonjour à vous, Roberto Saviano.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Antonella Vignoli, bonjour.
Bonjour.
Après l'enquête, le cinéma, la série télé, vous passez donc à la fiction littéraire, mais travaillez toujours la même matière. Vous a-t-elle permis cette fiction, ce roman, de voir cette réalité sous un jour nouveau?
En
réalité, ce passage n'a pas été traumatique. Parce que avant, j'écrivais des romans qui n'étaient pas de la fiction. Et maintenant, j'écris des romans fiction, mais en fait, tout s'inspire de faits réels.
Quindi resto sempre nel realismo.
Donc je reste dans le réalisme
et ho voluto scegliere la strada et, romanzesca.
J'ai voulu choisir la voie du roman parce que j'ai voulu rentrer dans la tête, dans le cœur et dans le ventre des personnages. Tandis qu'avant, j'étais obligé de m'arrêter à la limite de la chair. Parce que, en fait, je pouvais raconter ces personnes qui étaient des sujets de faits divers. Seulement à travers des outils judiciaires, des informations judiciaires, alors que maintenant je peux rentrer dans leur tête. Et de plus, étant donné qu'il s'agit des mineurs, je devais protéger leur nom. Il s'agit d'enfants criminels, mais toujours des enfants.
Et comment on va quand on se met dans la tête de ces enfants criminels? Est-ce que vous êtes devenu fou à vous mettre dans leur tête ou au contraire de plus en plus pragmatique et rationnel?
Ero stupito.
J'étais étonné.
Perché sono bambini geniali.
Étonné parce que ce sont des enfants géniaux.
Purtroppo.
Malheureusement, leur génie se consacre au crime.
Et à quel suicide, en quelque sorte.
Et aussi au suicide. Parce qu'en fait, ce sont des enfants qui savent qu'ils ont devant eux très peu d'années de vie.
Et donc,
pour moi, le fait de rentrer dans leur tête, cela voulait dire de trouver des enfants qui avaient les mêmes valeurs que leurs semblables allemands, français, c'est-à-dire les valeurs de vouloir se réaliser, d'être beau, d'être souhaité, d'être convoité, d'être trendy. Mais leur moyen pour obtenir cela, c'était les armes, les menaces et la drogue.
Et entrer dans leur tête, c'est aussi un peu comme entrer dans la tête de Machiavel.
En prenant un état, celui qui l'occupe doit bien examiner toutes les offenses qu'il lui est nécessaire de faire, et les faire toutes d'un coup, pour ne pas avoir à les renouveler chaque jour, et pouvoir, en ne les renouvelant pas, rassurer les hommes et les gagner par des bienfaits. Quiconque fait autrement, soit parce qu'il est timoré, soit parce qu'il prend une mauvaise décision, est toujours dans la nécessité d'avoir le couteau en main Il ne peut jamais se reposer sur ces sujets, ceux-ci ne pouvant jamais, du fait des injures fraîches et continuelles, être rassurés à son propos. En effet, les injures doivent se faire toutes ensemble, afin que, puisqu'on les goûte moins souvent, elles offensent moins. Les bienfaits doivent être faits peu à peu, afin qu'on les goûte mieux.
Voilà, parce que tout ce qui se passe dans leur tête est extrêmement codifié, hiérarchisé aussi, Roberto Saviano. Piranha est né d'un constat, le rajeunissement de ces organisations criminelles de la base au sommet qui recrutent et séduisent de plus en plus de jeunes. Ces bandes de jeunes, on les appelle les baby gangs. Et votre personnage principal, c'est Nicolas Fiorillo, surnommé Maharaja, entouré de son Paranza, une bande de jeunes caïds entre 10 et 16 ans, fascinés par le mal et l'argent, ambitieux, résolus, surtout à ne pas vivre la même vie que leurs parents, à ne pas connaître les mêmes galères. Le travail, c'est pour les tocards et les esclaves, écrivez-vous. Et puis, on gagne en 3 heures ce que mon père gagne en 1 mois. L'action se passe à Forcella, un quartier de Naples. Forcella, décrivez-vous, c'est une histoire de nouveaux départs, de villes nouvelles qui poussent sur des villes anciennes et de villes nouvelles qui vieillissent, de villes bruyantes et grouillantes. Le décor est posé ?
Assolutamente sì, è il cuore di
Naples. Tout à fait, c'est le cœur de Naples.
È una storia di periferia, ma
c'est une histoire de la périphérie.
È esattamente
mais en même temps cette périphérie est vraiment dans le centre.
Quindi come se si ridisegnassero.
Donc c'est un peu comme si on dessinait à nouveau les villes.
La periferia è la città che
la périphérie, c'est une sorte de ville incomplète, inachevée.
Et quindi in questo caso è un cuore incompleto.
Et donc c'est un cœur inachevé.
Le personnage principal, Nicolas, au fil des jours, va apprendre, définir son système de valeurs comme un modus operandi, passer un accord avec quelqu'un de haut placé, ne rien toucher plutôt que d'être à la solde de quelqu'un, accepter comme allié l'ennemi de son ennemi. Est-ce que ça fait un système de valeurs ?
Dramatiquement, si.
Oui, malheureusement, oui.
Et non è un sistema di valori.
Il ne s'agit pas d'un système de valeurs, d'un système de valeurs de la camorra.
Un sistema di valori in realtà della quotidianità.
Mais c'est un système de valeurs du quotidien, de notre quotidien. On le retrouve dans les familles, on le retrouve dans les bureaux, nous le retrouvons dans la politique.
Solo che tra di loro funziona.
Sauf que
con le armi.
Parmi eux, tout ce système fonctionne avec des armes et de manière très claire. On peut reconnaître une grande honnêteté et dramatique dans la manière de décrire toutes les dynamiques humaines. C'est-à-dire que si tu veux arriver, réussir, tu dois avoir l'autre. Avant qu'il t'ait.
Et codifié, c'est ce qu'on retrouvait dans les mots de Machiavel tout à l'heure. Ces jeunes s'inspirent quand même de mythologies modernes, de films, de jeux vidéo comme Assassin's Creed pour mettre en scène leur pouvoir. Vous parleriez, vous, aujourd'hui, Roberto Saviano, d'une sorte de Camorra 2.0 ?
Assolutamente sì, perché
oui,
vivono come tutti i loro coetanei.
En fait, ils vivent comme tous les autres jeunes, enfants, jouant à la PlayStation. Ils sont sur les réseaux sociaux.
Mais
la différence est que
les
autres jeunes jouent à Assassin's Creed sans avoir une arme dans ses mains ou une épée. Alors que ont une arme dans leurs mains. Et donc, en fait, c'est quelque chose de plus que le simple divertissement. Ces jeux deviennent une sorte d'entraînement.
Et dans leurs oreilles, ou peut-être dans leur bande-son ou leur jukebox, il y a notamment 50 Cent, Back Down, Get Rich or Die Trying.
Side, west side, I hold it, man. about me, the young boy. Any living thing that could not coexist with the kid must have ceased existing. Little nigga, now listen. Yo, mammy, yo, pappy, that bitch you chasing, your little dirty ass kid. I fucking erase him. Your success is not enough. You wanna be hard. Knowing if you get knocked, you get fucked in the yard. These are pop tarts, sweetheart. You're soft in the middle. I eat you for breakfast. A watch was exchanged for your necklace. And your boss is a bitch. If he could, he would. Sell his soul for cheap, trade his life to be sure. You could buy cars, but can't buy respect in the hood. Maybe I'm so disrespectful, cause to me you're a mystery. I know niggas from your hood.
Ils mettent souvent le doigt dans l'engrenage, ces jeunes qui sont au cœur de votre roman Piranha, Roberto Saviano, part du petit trafic et après c'est toujours plus loin, toujours plus haut, du deal au braquage, du braquage à l'extorsion, jusqu'au meurtre aussi parfois. L'un d'eux, Biscottino, l'un de vos jeunes héros, personnages, dit « Pour devenir un enfant, j'ai mis 10 ans, pour te mettre une balle dans la tronche, je mettrai pas plus d'une seconde. La vie, pour eux, n'a pas de valeur, ni celle des autres, ni la leur, mais est-ce qu'elle a un prix ?
Il prezzo è la morte.
Le prix, c'est la mort.
Nessuno di loro pensa di sopravvivere.
Aucun d'eux pense de pouvoir survivre à ce qu'ils sont en train de faire.
Però la proposta è questa. Mais vuoi vivere, per esempio, con 50 paia di scarpe?
Une proposition, c'est-à-dire, on peut vivre avec 50 paires de chaussures Nike.
Oppure Rolex.
Avec Rolex, une montre Panerai.
Puoi camminare per la tua strada.
Ou bien, tu veux marcher dans la rue avec le regard des filles qui regardent avec convoitise. Tu veux voir le regard des hommes qui baissent et qui te regardent seulement après que tu leur as donné ta permission. Tout cela n'a pas de prix. Donc, si pour obtenir tout ça, on va mourir, on peut dire qu'on a bien vécu sa vie. Au moins, c'est ce qu'ils pensent. Ils regardent leurs parents, ils les voient, ce sont des parents très jeunes, ils ont 50 ans, et ils les voient comme des gens qui n'ont pas réussi. Des personnes qui ont une vie malheureuse, remplies de dettes.
Et
donc, pour eux, les parents ne sont pas un modèle. Pour eux, pouvoir vivre longtemps, cela veut dire vivre comme leurs parents. Et donc, ils sont très conscients et ils savent qu'il faut durer très peu de temps et gagner beaucoup.
Et vous, Roberto Saviano, comment vous traitez en vous cette question de la mort ? Est-ce que vous vous êtes habitué à l'idée de mourir un jour ? Ou est-ce que la mort vous fait peur encore ?
Non, non mi fa paura perché
non, je n'ai pas peur.
Me ne si parla della mia morte così tanto spesso.
On me parle de ma mort tellement souvent que
si on vous en parlait pas, vous n'y penseriez pas.
Perché se non se ne parlasse non ci penserebbe.
Forse meno.
Peut-être moi, j'y penserai moins.
Ci penserai come tutti.
J'y penserai comme tous les autres.
In realtà, forse di parlare,
alors que à force di, d'entendre parler de ma mort. Je la vois comme quelque chose qui ne me concerne pas. Bien évidemment, je sais que ceux qui m'ont promis un jour ou l'autre le feront, le réaliseront. Mais toutes ces années ont été des années d'entraînement pour moi aussi. Ces années ne m'ont pas tué, mais ne m'ont pas laissé vivre. Et de plus, j'ai mon pays, la moitié au moins de mon pays me demande de justifier ma vie. C'est-à-dire,
ils
me demandent pourquoi tu es vivant. Alors, ils ne devaient pas te tuer. Donc, tout cela était faux, finalement.
Si tu es vivant,
si tu es vivant tout ce qu'on disait de toi, finalement, n'était pas vrai. La mort, la vie en Italie est une faute. La vie en Italie est une faute. C'est-à-dire que moi, je devais mourir au moins pour réjouir mon pays. Au moins il y a 5 ans. Je suis en avant de 5 ans.
Le moteur de ces gangs, Roberto Saviano, c'est la vengeance. Extrait des Baby Boss de la Camorra, un reportage Arte.
Je suis accusé de tentative de meurtre. J'ai pris un pistolet et j'ai tiré devant un bar. J'avais été impliqué dans une bagarre quelques jours auparavant. J'ai reçu des coups de poing, des coups de pied et des coups de matraque dans le dos. Je me suis senti humilié. Alors, pour me venger, on a décidé avec un copain d'y retourner et d'ouvrir le feu. Les jeunes qui habitent à Naples ne vont pas à l'école le matin. Ils traînent dans les rues de leur quartier. Ils dealent ou font des tours en scooter. Il y a aussi des types cinglés qui ne veulent pas seulement dealer, mais qui veulent aussi faire ce que j'ai fait, tirer sur des gens et le faire tous les jours.
Et la vengeance, Roberto Saviano, est au cœur de la tragédie. Shakespeare l'avait bien compris. C'est vraiment un roman, Piranha, un roman de la vengeance. Et le drame, c'est que la vengeance, elle, ne meurt jamais. Elle ne s'éteint jamais. Mais c'est aussi un formidable ressort littéraire, Roberto Saviano.
Si, assolutamente.
Oui, tout à fait.
Anche perché io scrivo per vendetta.
Aussi parce que moi, j'écris. Par vengeance.
Et
cette histoire, l'histoire des Piranhas, est une histoire de vengeance. Pas seulement parce que le personnage veut venger et subit en quelque sorte la vengeance d'un de ses copains. Mais également parce que sa vie et la vie est une vengeance contre tout ce que tu aurais voulu et que tu n'as pas.
Les générations
précédentes pouvaient espérer d'obtenir cela par le travail. Avec difficulté, mais ils auraient pu l'obtenir. Alors qu'aujourd'hui, cela est impossible. Et donc,
ils pensent
que pour se venger contre la destinée,
et prendersi con ogni mezzo quello che vogliono.
Il faut essayer de prendre par tout moyen ce qu'ils veulent.
Comment vous distinguez la vengeance de la revanche?
La rivincita ha un percorso.
La revanche.
Di fatica,
un parcours qui signifie fatigue, engagement, il faut démontrer quelque chose, alors que à la vengeance n'intéresse pas comment nous arrivons à punir ceux qui t'a blessé. À la vengeance, ça n'intéresse pas si nous sommes différents de ceux que nous allons frapper.
La
revanche t'améliore.
La vendetta ti avvelena.
La vengeance t'empoisonne.
Nico, petit, votre personnage principal, lorsqu'il est avec ses parents, assiste à un meurtre en pleine rue. Il est pris d'une curiosité sans peur, comme vous l'écrivez, comme si c'était un jeu. Il veut aller voir le mort. Ado, est-ce que vous avez ressenti, Roberto Saviano, une attirance un peu malsaine pour la mort, mais aussi pour ce monde et ses attributs, la violence, mais aussi le pouvoir, l'argent rapide, cette virilité manifeste?
Io andavo sempre a vedere i morti ammazzati.
Moi, j'allais toujours voir les morts
da
tués.
Quando ero adolescente.
Depuis que j'étais adolescent.
Mi faceva sentire grande.
Toujours, parce que
non
cela me faisait sentir grand et je n'ai jamais été impressionné par tout ça.
Io sono nato nel 79.
Je suis né en 1979
et
Dans mon quartier, il y a eu 5000 morts. Donc c'était très facile de voir des cadavres dans les années 80 et 90 comme ça dans les rues. Et en fait, il y avait vraiment un sens d'observation très précis, mais pas seulement moi. Ce n'était pas que moi à faire cela, tous mes amis aussi. Nous regardions où est-ce que le projectile avait percé. On regarde l'expression du visage, comme le cadavre est habillé, la puanteur, s'il venait de manger. On pouvait très rapidement, comme des experts, à comprendre par ces détails beaucoup de choses. Et une fois, par exemple, il y avait un corps qui avait été tué, la personne avait été frappée, on l'avait tiré dessus dans sa voiture, et on pouvait encore entendre la musique dans la voiture. Et donc on pouvait écouter la musique qu'il avait écouté juste avant de mourir.
À la rentrée, en septembre, apparu en France un roman de l'écrivain Jérôme Ferrari, intitulé « À son image », qui se passe en Corse, dans le milieu du régionalisme, du nationalisme corse. Et cette jeune photographe journaliste, Antonia, est témoin d'un meurtre de rue. Elle assiste à la scène, elle se précipite, elle va voir le corps dans la voiture. On voit exactement ce que vous décrivez, l'impact des balles. Et elle doit rentrer au journal, dans la presse régionale, raconter ce qui s'est passé. Je vous en lis un extrait. Le collègue d'Antonia avait rédigé un article dont les 4000 signes n'ajoutaient pas la moindre information à celle que donnait le titre « Un homme abattu à Ajaccio ». Le journaliste cultivait désormais l'art de parler pour ne rien dire avec une virtuosité qui touchait au génie. Il combinait magistralement lieux communs, clichés, expressions toutes faites et considérations édifiantes de façon à produire sans coup férir et sur n'importe quel sujet, des textes rigoureusement vides. L'article commençait ainsi par noter que, une fois de plus, force est de constater que les tueurs n'ont laissé aucune chance à leurs victimes. L'inélégance systématique d'assassins qui privilégiait manifestement l'efficacité au détriment des règles de la plus élémentaire courtoisie. L'article s'achevait sur une lyrique déploration de la violence suivie de vœux pour le rétablissement d'une paix publique conforme aux légitimes aspirations de nos concitoyens. Est-ce que vous vous souvenez, Roberto Saviano, de vos premiers faits divers comme journaliste et de la manière dont vous avez peut-être dû édulcorer la réalité? Comment vous les avez racontés? Comment vous les avez écrits, cette violence?
Oui, je m'en
souviens. J'avais
23-24
ans.
Et
je ne devais pas édulcorer. Parce que l'Italie, à la différence de la France, a une culture antimafieuse qui est très articulée. En France, on a du mal à parler de la mafia française. Parce que la mafia est forte. Puissante. Mais je me souviens qu'une fois j'avais été dans l'endroit d'un guet-apens et il y avait un 500 brûlé avec à l'intérieur un cadavre. Et je me souviens que j'avais attiré mon attention sur un gendarme qui est en train de vomir. Et j'avais écrit un article sur cela. Et cet article n'avait pas plu au chef de rédaction parce que j'avais saisi un détail qui n'était pas utile pour la presse, pour les faits divers. Et là, j'avais compris la différence entre l'écrivain et le journaliste. Il s'agit de deux chemins très différents pour atteindre la réalité. Le journaliste doit ramener chez lui cet objectif des faits divers, que les faits divers lui demandent, quelque chose de très rapide, alors que l'écrivain doit poursuivre un autre objectif. Il ne doit pas répondre à personne. Et cela peut rendre l'écrivain plus fragile et en même temps plus empathique. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais décidé que je pouvais utiliser les deux méthodes.
Et la fiction, effectivement. Ouais. Le journalisme peut éteindre certaines choses tout en racontant une matière brute, l'enquête, cette violence brute, tandis que la fiction, elle, doit bien prendre garde de ne pas idéaliser, héroïser finalement ses auteurs. Je voulais vous entendre sur un dernier point et pour ouvrir cette discussion, la question du secret, je vous propose d'écouter ces mots d'Umberto Eco.
Il est vrai que quand on s'approche d'un secret, quand on veut percer ce secret, et surtout s'il s'agit d'un secret fondateur de la société ou du monde, on risque sa vie. C'est évident. Donc il y a des personnages dans ce roman qui risquent leur vie, et certains d'ailleurs vont la perdre. Mais je me dis que vous, quand même, vous êtes bien en vie, quand même. Normalement, vous devriez être une victime de votre lit. Vous ne devriez pas être là. Vous devriez être mort.
Attendez.
Oui.
Donnez-moi du temps. Trentaine d'années, au moins.
Ben oui, parce que vous percez un secret, le secret de...
Non, il n'y a pas de secret important dans mon livre. Il y a des gens qui cherchent un faux secret. Hein.
Ouais. Oui, mais...
J'insiste sur ce fait, et il y a un essai de Georg Simmel, le grand sociologue allemand du début du siècle, sur la fonction que le secret peut jouer dans tous les jeux de pouvoir. Et le secret le plus fort, celui avec lequel on fait des jeux de domination, c'est le secret vide. Parce que le secret le plus terrible est le secret qui n'existe pas et qui est manœuvré, manié par quelqu'un pour convaincre les autres qu'il y a...
Il existe un secret.
Vous voyez, en 30 ans, c'était un entretien d'Umberto Eco avec Bernard Pivot en 1990. En 30 ans, les questions des journalistes, elles, en tout cas, n'ont pas beaucoup évolué. Peut-être que la situation des écrivains non plus. Est-ce que vous êtes un écrivain du secret, Roberto Saviano? Est-ce que vous percevez comme tel?
Innanzitutto, mi ha emozionato sentire la voce di Umberto.
Ému. Entendre la voix de Umberto Eco,
qui est stato il primo scrittore che mi ha sostenuto pubblicamente quando
il premier écrivain qui m'a soutenu publiquement dès que je commençais à avoir des ennuis.
Et mi manca molto.
Et c'est quelqu'un qui me manque beaucoup.
Sì, aveva ragione, nel senso
il avait raison.
Il segreto più pericoloso,
le secret le plus dangereux est le secret qui n'existe pas.
Et io tutta la mia opera.
Et moi, dans toute mon œuvre, dans mon écriture, eh bien, moi, je veux toujours démontrer que ce que je raconte existe.
Che ciò che racconto è accaduto.
Que ce que je raconte, il s'est bien produit.
Et che nel momento in cui il lettore lo conosce,
au moment où le lecteur
lo sta già trasformando,
le comprend. Le connaît, il est déjà en train de le transformer.
Notre invité aujourd'hui jusqu'à 13h30, l'écrivain, romancier, enquêteur Roberto Saviano, à l'occasion de la parution de son premier roman, Piranha. C'est aux éditions Gallimard. Vous restez avec nous tous les deux. Tout de suite, ça va être l'heure du journal.